Bonjour à tous. La fin du suspense au Congrès. Les Républicains avec des résultats du second tour entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti attendus dans une heure et demie. Participation massive des adhérents du parti. 76,6% de votants à 10h. Nous verrons dans un instant comment va se dérouler la journée au parti Les Républicains. Les soignants de retour dans la rue pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital. Les syndicats hospitaliers appellent à une journée de grève dans toute la France. Et au moment où la cinquième vague de l'épidémie fragilise l'hôpital. Les Français, à l'approche de Noël, cherchent un rendez-vous pour la dose de rappel. Une rencontre diplomatique attendue par certains, très critiquée par d'autres. Emmanuel Macron en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite à Jeddah et l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman depuis l'assassinat il y a 3 ans du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Dans ce journal également, le choix culturel nous amène aujourd'hui à Roubaix pour une braderie pas comme les autres, la braderie de l'art. Et en football, Lens PSG ce soir, les supporters lensois entre fascination et indifférence attendent Lionel Messi 7 fois Ballon d'Or. La météo, journée agitée sur la plupart des régions. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est donc le jour J pour l'investiture du parti Les Républicains dans un duel que l'on annonce peut-être plus serré que ce que l'on aurait pu imaginer. En tout cas, les adhérents du parti ont jusqu'à 14 heures pour départager Valérie Pécresse et Éric Ciotti, les deux finalistes du Congrès des Républicains, et on saura à 14h30 qui sera le candidat LR à la présidentielle pour ce second tour. Les militants se sont donc mobilisés et à 16 heures, plus de 76% d'entre eux avaient voté contre 73% au premier tour. Le déroulement de la journée chez les Républicains, Anne Souhaitement.
Eh bien, vous l'avez dit, les militants ont encore 1 heure pour voter. Le scrutin sera clos à 14h. Pas de dépouillement, le vote étant électronique. Les résultats seront donc immédiats pour ceux qui assisteront au décèlement de l'urne, annoncé par le patron du parti, à Valérie Pécresse et Éric Ciotti, dans le bureau de Christian Jacob. Les trois descendront ensuite en salle de presse vers 14h30 pour annoncer publiquement ces résultats. Le candidat désigné par les militants prononcera alors une première déclaration, ses tout premiers mots de candidat officiel de la droite aux côtés du perdant avant d'être ce soir l'invité d'un 20h. Vous l'avez compris, encore une fois, Christian Jacob fait tout pour préserver l'unité de son parti, pour que la droite aborde rassemblée la présidentielle. Éliminés du premier tour, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, qui se sont rangés derrière Valérie Pécresse dans ce second tour, ont d'ailleurs assuré qu'ils feraient la campagne du gagnant, qui que ce soit. Bientôt la fin du suspense.
Et dans les rangs de la majorité, le vote d'aujourd'hui est bien sûr très observé. L'hypothèse d'une victoire de Valérie Pécresse a même paru inquiétée dans les rangs de la Macronie, craignant que Valérie Pécresse puisse récupérer les électeurs de droite qui avaient voté pour Emmanuel Macron. En revanche, pour Amélie de Montchalin, le résultat du vote des adhérents LR importe peu, selon la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Le débat dans cette campagne interne aux Républicains a montré un parti crispé sur de vieilles idées et la campagne de François Fillon qui redémarre.
C'est au fond une seule droite, une droite qu'on connaît depuis maintenant 2017 en particulier. C'est une droite qui est rétrécie, qui est rabougrie, qui est dans un esprit de déclin, de défaite. Éric Ciotti, on pourrait l'appeler Éric Pécresse, et Valérie Pécresse, on pourrait l'appeler Valérie Ciotti. Au fond, ils s'appellent tous les deux Fillon. Et ils ont, on l'a bien vu pendant cette campagne, au fond fait de leurs échecs passés des fiertés. On est dans la répétition à l'infini de ce qui se disait en 2017. Madame Pécresse est très fière de nous dire qu'elle aimerait que ce qui n'a pas marché en 2007 se fasse maintenant, mais on a envie de dire que la France, elle a quand même changé en 15 ans. Il y a quand même des choses dans notre pays qui ont évolué. Et vous avez une surenchère. Vous avez une surenchère sur beaucoup de sujets. Je l'ai vu sur l'État. Vous savez, leurs idées, et Monsieur Ciotti et Madame Pécresse, c'est Reagan et Thatcher.
Amélie de Montchalin avec Ersin Lebovitch. C'est l'une des photos du jour qui nous vient de Jeddah, en Arabie Saoudite. La longue poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, MBS, devenu un paria sur la scène internationale depuis que la CIA a pointé sa responsabilité dans le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Jeddah, dernière étape de la tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Fort de la vente record de 80 rafales aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État défend son choix de traiter avec les régimes autoritaires du Golfe au nom de sa réelle politique. Sur place à Jeddah, Christian Chesneau.
Emmanuel Macron a débarqué d'une grosse limousine au palais royal de Jeddah. Le prince héritier, Mohamed Ben Salman, vêtu d'une abaya d'apparat, l'attendait sourire aux lèvres. Les deux hommes ont échangé une longue poignée de main. Deux portes monumentales se sont ensuite refermées derrière eux. Symboliquement, cet entretien et ce déjeuner marquent la fin de la quarantaine diplomatique du prince héritier. Emmanuel Macron est le premier dirigeant d'un grand pays occidental à venir personnellement rencontrer Mohamed Ben Salman depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi. Il y avait eu des échanges à l'occasion du G20 organisé en 2020 en Arabie Saoudite, mais en vidéoconférence. Aujourd'hui, l'affaire Khashoggi semble disparaître des écrans radars de la diplomatie française. L'heure est au réalisme et Emmanuel Macron assume sa poignée de main avec MBS. L'Arabie Saoudite est incontournable sur la scène régionale, notamment sur la crise libanaise, la guerre au Yémen, la lutte contre Daesh en Irak et bien sûr le dossier nucléaire iranien. L'Arabie Saoudite de MBS, c'est aussi la promesse de contrat pour les industriels français attirés par les projets pharaoniques du prince. Jeddah, Éric Audrac, Christian Chéneau, France Inter.
Et puis hier à Doha, Emmanuel Macron s'est félicité de l'aide du Qatar pour organiser l'évacuation de 258 Afghans. Un appareil affrété de Paris a évacué toutes ces personnes particulièrement menacées en raison de leur engagement, notamment des journalistes ou de leurs liens avec la France. Par ailleurs, plusieurs pays européens, dont la France, projettent l'ouverture d'une représentation diplomatique commune en Afghanistan, désormais contrôlée par les talibans. Et puis encore en bref, le pape François est arrivé en Grèce pour une visite de 2 jours et demi ce matin à Athènes. Le pape a pointé la responsabilité de l'Europe dans la crise migratoire, la disant parfois bloquée et déchirée par les égoïsmes nationalistes.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Les soignants de retour dans la rue aujourd'hui pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital. Plusieurs collectifs et syndicats de professionnels hospitaliers et libéraux appellent à la grève dans toute la France. Les soignants qui se disent à bout veulent alerter sur l'état du système de santé, manque de personnel, lits fermés, démissions en cascade et au moment où la 5e vague de l'épidémie met sous pression un système hospitalier fragilisé, les soignants se retrouvent devant le ministère des Solidarités et de la Santé à Paris et parmi les manifestants. Sylvie, médecin urgentiste à Voiron dans l'Isère, elle est au micro d'un ordanier.
Chez nous, le plus en difficulté, c'est les urgences qui ferment partiellement la nuit sur certaines plages depuis déjà plusieurs semaines et pour lesquelles il n'y a pas de plan et pas d'avenir à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Donc on est très inquiets.
Pourquoi ils ferment ce service d'urgence ?
Parce qu'on manque de monde, de médecins essentiellement aux urgences. D'autres services, c'est les infirmiers. Ça varie un petit peu selon les services. Chez nous, actuellement, aux urgences, c'est des médecins.
Et vous diriez que le Covid a rajouté une crise qui existait déjà ?
Ça a aggravé, ça a fini d'aggraver une crise, mais quand le Covid est arrivé, ça faisait comme déjà un an que les services d'urgence étaient en grève et que ça n'a fait qu'aggraver les choses, ça ne l'a pas créé. Et le système qui est tenu à bout de bras par les gens qui sont encore là est en train de s'écrouler. Je pense qu'il faut vraiment que les gens tous prennent conscience de ça. C'est votre accès aux soins qui est menacé là. Et des retards et des pertes de chance, il y en a déjà beaucoup.
Sylvie, médecin urgentiste dans l'Isère, et face à la flambée de l'épidémie et le nouveau variant Omicron qui se propage vitesse grand V, le trafic aérien vers l'Afrique australe reprend sous très haute surveillance. Le gouvernement annonce une nouvelle organisation drastique pour les vols au départ ou en provenance de l'Afrique australe avec de nouvelles mesures pour éviter la propagation du nouveau variant sur le sol français, comme des tests et une période d'isolement de 10 jours, quel que soit le résultat du test pour les personnes qui arrivent d'un pays classé en zone écarlate. Et pour ce qui concerne la vaccination, la ruée sur les créneaux disponibles était attendue. Elle se confirme de jour en jour. Et à l'approche de Noël, de nombreux Français cherchent à obtenir un rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel. Reportage dans des pharmacies à Paris, Adrien Serrière.
C'est toute une profession qui se retrouve sous l'eau depuis une semaine. Les pharmacies prises d'assaut. Pourtant, il n'y a pas foule dans cette pharmacie du 16e arrondissement de Paris, mais le téléphone n'arrête pas de sonner.
Ah, sans arrêt, c'est un standard. On est devenu un standard. C'est blindé, là. Jusqu'à janvier, mi-janvier, c'est blindé.
Et le rythme actuel pour Jérémy et ses collègues, c'est 14 doses par jour.
En soi, ça prend 2 minutes à vacciner. C'est juste qu'après, il faut déclarer, il faut donner les papiers, il faut que la personne attende 10 minutes. Voilà. Une petite taille de pharma et 3-4 personnes, tout de suite, c'est dur à gérer. Une grande pharmacie qui a de la place, c'est facile. Donc. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Assise sur une chaise pour quelques minutes d'observation, Martine vient de recevoir sa 3e dose.
J'ai pris rendez-vous, c'était aujourd'hui, je n'ai pas attendu. Ma vaccination est faite, c'est parfait.
Pour Sergio, ça aura été plus compliqué d'obtenir un créneau pour sa dose de rappel. Il a d'abord essayé sur Doctolib.
Oh, c'est débordé. C'est impossible pour l'application.
Il a donc tenté sa chance directement en pharmacie.
On n'avait pas de rendez-vous, donc c'était pas difficile. Uniquement, c'était la dose qu'il y avait de Moderna, pas Pfizer, mais bon.
Vous auriez préféré Pfizer ou...
Oui, oui, tout à fait, mais bon, on a demandé Pfizer, il n'y avait pas Pfizer, il y a Moderna.
C'est un constat qu'au fond aussi les pharmaciens, les patients ont une préférence pour le vaccin Pfizer, plus connu du grand public.
Un mot du Téléthon avec les promesses de dons qui s'élèvent à 13h à plus de 18 millions d'euros pour faire une promesse de don. Il faut composer le 36-37 ou par internet don.téléthon.fr. La 17e journée de Ligue 1 de football avec à l'affiche ce soir Lens-PSG. Lens, 5e au classement, accueille donc le leader et pour la première fois, Lionel Messi va fouler la pelouse du stade Bollaert et les supporters lensois naviguent entre fascination et indifférence à l'égard de la star Messi, 7 fois ballon d'or. Sylvain Charbet, France Bleu Nord.
Et parmi ceux qui sont impatients de voir Messi fouler la pelouse de Bollaert, il y a Pierre.
Il y a aussi une part de chance où on pourra dire à nos enfants, à nos petits-enfants, dans des années et des années, j'ai vu le meilleur joueur de l'histoire du foot jouer en vrai. Et en plus de ça, c'était à Lens et on a gagné. Enfin bref, disons que pour plein de raisons, c'est une excitation énorme.
Une excitation partagée par Fabien.
Ça reste Messi, c'est un nom qui va marquer le foot à jamais, je pense. Mais voilà, après ça restera un joueur du PSG. Quand il faudra le siffler sur les corners, je sifflerai. C'est ce qu'on voulait quand on était en Ligue 2, on voulait remonter en Ligue 1 et moi, c'est du plaisir.
L'Argentin, en revanche, laisse totalement indifférent Benjamin.
Voir Messi à Lens, sans être méchant, je m'en fiche en fait. Il y a beaucoup plus important et je viens pas voir Messi en fait à Lens, je viens voir mes joueurs jouer, je viens voir mon équipe jouer.
Comme Benjamin, Jonathan, lui aussi, préfère se concentrer sur ses stars.
Pour moi, les Messi, c'est Calcutta. Notre Mbappé, c'est Akelimwendo. J'en ai marre qu'on nous fait passer pour un public de footistes parce qu'il y a Messi qui passe à Bollaert. Moi, particulièrement, on prend les 3 points, Paris s'en va et Paris part avec 0 points.
Un scénario qui plaira, c'est une certitude à tous les fans du RC Lens, qu'ils soient supporters d'un soir ou abonnés de longue date.
Voilà, Lens PSG, coup d'envoi à 21h. Le choix culturel de ce week-end nous emmène à Roubaix pour une braderie, pas comme les autres, la braderie de l'art qui fête ses 30 ans dans les immenses espaces de la condition publique, un ancien entrepôt de laine. 150 artistes vont créer des œuvres devant le public avec des objets de récupération, des objets vendus entre 1 et 300 euros maximum, Isabelle Pasquier.
Pendant 24 heures non-stop, 150 artistes vont créer des œuvres insolites avec 3000 mètres cubes d'objets de récupération pour en faire des œuvres, des objets design uniques. Et c'est la bouillonnante artiste Fanny Bouyagui, avec son association Art.m, qui a inventé cette braderie éco-responsable bien avant l'heure.
Alors, l'idée m'est venue en allant dans une galerie avec ma mère. Elle a vu un tableau, elle a regardé le prix, elle m'a dit « mais c'est plus que le salaire de ton père ». Donc j'ai créé la braderie de l'art et les artistes travaillent sur place, donc on leur fournit que des objets récupérés dans les entreprises, du métal, du caoutchouc, du plastique. Et là, on est parti sur une vraie création complètement incroyable.
Parmi les artistes, Tim de Fleur du studio Aeco, qui crée du design avec des briques, symbole du patrimoine régional.
La braderie de l'art, c'est une cour de récréation pour les créatifs. C'est des créations spontanées avec des choses qu'on va trouver sur place. C'est un joyeux bordel, c'est une expérience magique.
Monsieur Voul, lui, est un street artiste qui s'affiche sur les murs de Roubaix.
Il faut produire devant les gens. On a le petit défi de sortir des choses avec ce qui est disponible. Entre les rencontres avec le public et les autres artistes, c'est super intéressant.
Le duo Oran va proposer aux visiteurs d'inventer l'historique d'un objet et d'en faire une œuvre. Avec passion et un grain de folie, à Roubaix, l'art recycle et sublime nos déchets.
La braderie de l'art à Roubaix jusqu'à demain soir. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec les œufs de Louer. Savourez les œufs fermiers de Louer, de poules élevées en liberté. Louer, libre par nature.
Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une ambiance agitée aujourd'hui avec un vent à 90 km à l'heure sur les côtes, 70 dans l'intérieur, une mer par conséquent agitée à forte sur la façade atlantique et le long de la Manche, sous un ciel d'averse qui va progressivement concerner toute la zone allant de la Manche au Poitou-Charentes, au centre et du nord de la Seine à la Lorraine, des averses de pluie et neige mêlées et d'orages, avec de la neige probable ce soir et la nuit prochaine sur les hauteurs bretonnes et normandes ainsi que sur le Morvan. Dans le sud et dans l'est, le temps va rester maussade avec de la neige à moyenne altitude en montagne. La nuit prochaine, la limite pluie-neige va descendre vers 800 mètres. À noter le fort risque d'avalanche pour le nord des Alpes et l'ouest de la chaîne des Pyrénées ainsi que pour la montagne Corse. Les températures, avant de prendre un coup de frais demain, vont s'établir cet après-midi entre 6 et 9 degrés dans la moitié nord, 12 à 16 de l'Aquitaine à la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.